qui remobilise encore et qui donne encore de l'énergie dans cette mobilisation. Bruno Dubois, merci de nous rejoindre. Vous êtes neurologue à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, membre de l'Académie de médecine. Et avec vous aujourd'hui, nous allons faire le point sur l'actualité scientifique de la recherche en direction de la maladie d'Alzheimer. Et cette année 2022, elle n'est pas comme les autres. Alors, elle n'est pas comme les autres dans plusieurs directions, et notamment peut-être dans la direction de la neuroimagerie. Qu'est-ce qu'on voit dans le cerveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ce niveau-là? C'est très à bien. Vous.
Merci beaucoup. Et avant peut-être d'aborder cette question, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai, moi aussi, à être ici, à Lyon, dans ce bel endroit. Merci de nous accueillir dans des conditions aussi remarquables. Et vous dire aussi le plaisir que j'ai de travailler dans cette fondation pour la recherche sur Alzheimer et vous rappeler que, si vous ne le savez déjà, que c'est quand même la fondation qui soutient le plus la recherche au niveau du pays. Donc vraiment, ce que fait cette fondation est tout à fait remarquable et donc si vous avez envie, eh bien, soutenez cette fondation parce que c'est elle qui investit le plus dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Alors, vous m'avez demandé d'aborder la question des lésions. Est-ce qu'on peut voir les lésions de la maladie d'Alzheimer? Et bien, je vais vous dire que non seulement on les voit, mais je voudrais essayer de vous démontrer combien c'est important qu'on les voit et comment on a pu progresser grâce à cette possibilité que l'on a d'identifier les lésions chez les patients atteints de cette maladie. Donc on va parler un peu de notre réalité médico-scientifique, comme vous allez le voir. Alors, tout d'abord, je voudrais vous rappeler l'historique, c'est cette rencontre entre un homme et une femme, entre une femme qui s'appelait Auguste D et un homme qui s'appelait Alois Alzheimer. Cette rencontre a eu lieu le 25 novembre 1901, date à laquelle cette femme qui est à gauche, qui est âgée de 52 ans, la photographie a été prise par Alzheimer lui-même. C'est une photographie qui a un certain intérêt historique. C'est la photographie prise par Alois lorsqu'elle rentre à l'hôpital où il exerce. Donc il voit cette patiente, il l'examine, et voilà, c'est un document historique, on voit l'observation médicale que Alois Alzheimer fait le jour de l'entrée de cette patiente, et il lui pose des questions, il lui dit « comment vous appelez-vous » Elle peut même pas dire son nom. Et donc il va décrire finalement très très précisément tous les symptômes qu'elle présente, et puis 4 ou 5 ans après, elle décède. Il va examiner le cerveau de cette patiente et il va, dans une réunion qui est importante dans l'histoire médicale, je vais vous dire pourquoi, il va rapporter les lésions qu'il observe dans le cerveau de cette patiente Auguste D. Et voilà les deux lésions qu'il voit, et c'est la seule fois que je ferai un peu de médecine avec vous. Vous avez à gauche, vous voyez, cette substance violette qui est une sorte de masse gélatineuse qui est située entre plusieurs neurones et qu'on appelle les plaques amyloïdes. C'est une substance amyloïde qui est colorée ici, et donc il rapporte la présence de ces plaques amyloïdes dans le cerveau de cette patiente, et il décrit aussi, si j'ai un pointeur, je ne suis pas sûr d'avoir un pointeur, peut-être là, oui, et il décrit ici, qu'importe, vous voyez une sorte de flamèche comme ça que l'on voit à droite, et bien c'est un neurone qui est en voie de dégénérescence neurofibrillaire, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie des protéines tau, T-A-U, dans les neurones de la patiente. Donc, vous voyez, ce sont les deux lésions qu'il décrit, qu'il rapporte, si vous voulez, lors de cette réunion médicale, les plaques amyloïdes à gauche et les lésions neurofibrillaires à droite, c'est-à-dire la pathologie tau, T-A-U. Très bien. Et je vous ai mis au-dessous ce qui me paraît essentiel et en quoi ce rapport est essentiel, c'est que pour la première fois, un état démentiel, c'est-à-dire cette patiente avait ce qu'on appelle une démence, on en reparlera après, eh bien un état démentiel, jusque-là envisagé comme un dérèglement d'origine psychiatrique, d'accord, va être rattaché à des lésions cérébrales identifiées. C'est une date considérable dans l'histoire de la médecine, vous voyez, parce que c'est la première fois que l'on va dire, voilà, un dérèglement délirant, démentiel, etc., et n'est pas une maladie psychiatrique, c'est une maladie des neurones. Et c'est ce que va faire Alzheimer, il va décrire les anomalies neuronales qui sous-tendent ce dérèglement apparemment psychiatrique. Donc, si vous voulez, ça ouvre la voie, d'ailleurs, on en reparlera peut-être après, mais ça ouvre la voie à l'avenir de la pathologie psychiatrique. Est-ce que la pathologie psychiatrique n'est-elle pas produite par le cerveau? Mais oui. Donc, est-ce qu'elle n'est pas produite par des dérèglements neuronaux? Mais oui. Donc, si vous voulez, on entre dans une nouvelle phase de la conception que l'on peut avoir des maladies cérébrales, les maladies mentales faisant partie du cerveau, même si, des maladies cérébrales, même si elles doivent être prises en charge par des spécialistes qui ont une expertise particulière dans leur capacité à accompagner la souffrance mentale. Donc je pense que c'est effectivement une date importante dans l'histoire de la neurologie. Donc, à la suite de cette observation, le diagnostic de cette maladie reposait sur une seule et un seul argument qui était la description des symptômes. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas voir les lésions des patients. On ne voyait pas les lésions des patients, donc on faisait une sorte de diagnostic de probabilité. On avait un patient qui avait un tableau, excusez-moi, on reviendra sur ce terme, un tableau de démence, et on disait, par exclusion de toute autre cause, eh bien ça doit être une démence de type Alzheimer. Mais c'était un diagnostic de probabilité. On ne pouvait pas voir les lésions. La seule façon de voir les lésions, excusez-moi de le dire, mais c'était de faire comme Alzheimer, c'est-à-dire de couper le cerveau. Et finalement, on n'avait qu'une fois sur 100 la preuve de la réalité du diagnostic lorsque les patients décédaient à l'hôpital et qu'on faisait une vérification du cerveau et qu'on retrouvait les deux lésions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pendant un siècle, on ne faisait qu'un diagnostic de probabilité fondé uniquement sur une présentation clinique, et le scanner pouvait servir simplement pour éliminer d'autres causes. Vous voyez, on éliminait une tumeur cérébrale, on éliminait une hydrocéphalie à pression normale, on éliminait une encéphalite, etc. Et on arrivait au diagnostic d'élimination, d'exclusion. Ça doit être une démence de type Alzheimer, c'est un diagnostic de probabilité. Eh bien, les choses vont changer avec l'IRM, parce que l'IRM nous permet d'avoir à ce moment-là une investigation beaucoup plus fine d'une région cérébrale qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, je vous demande de bien garder cette image en mémoire, l'hippocampe, j'ai tendance à vulgariser le rôle de l'hippocampe, je dis que c'est le péage de l'autoroute des souvenirs, c'est la porte d'entrée dans la voie des souvenirs. Donc quand vous vivez quelque chose, quand vous êtes, là vous avez une réunion qui peut-être vous intéresser, et donc on va savoir si vous allez mémoriser ce que vous vivez en ce moment, mémoriser l'ambiance, l'environnement, ce que vous entendez, ce que vous voyez, les images que vous voyez, etc. Tout ça, c'est perçu par votre système perceptif, par votre système de vision, d'audition. On a des appareils, des capteurs qui enregistrent les informations. Et ces informations qui sont enregistrées, le présent que vous enregistrez, va être envoyé comme un ballon de rugby vers cet hippocampe pour être gardé, pour être stocké dans le cerveau. Voyez, et quand l'hippocampe est cassé, comme dans la maladie d'Alzheimer, j'anticipe sur ce que je vais vous dire après, mais comme ça, vous comprendrez mieux la deuxième partie de mon intervention. Quand l'hippocampe est cassé, ce que vous avez vécu, le présent, n'est pas transformé en mémoire, n'est pas transformé en souvenir. Donc, si vous voulez, on voit le rôle central de l'hippocampe qui est finalement la porte d'entrée dans la banque dans laquelle on va stocker les informations. Donc, on se doutait que l'hippocampe jouait un rôle important, mais on n'avait pas pu encore le mesurer dans la maladie d'Alzheimer jusqu'au jour où on s'est rendu compte que quand on faisait des coupes perpendiculaires au grand axe de l'hippocampe, eh bien on pouvait à ce moment-là avoir une information sur le volume. Avec un de mes collègues qui s'appelle le professeur Le Hérissy, Stéphane Le Hérissy, à qui je rends hommage, on a fait une étude qui a été publiée en 1996, dans laquelle on a mesuré le volume, vous voyez, le volume de l'hippocampe. Vous avez entouré en blanc, vous voyez, voilà, il a fait ce travail de circonscrire, vous voyez, l'hippocampe. Il a pu, avec une technique manuelle, ça lui prenait à l'époque 5 heures par hippocampe, et il y a deux hippocampes, c'est 10 heures par jour, à contourner l'hippocampe et à mesurer le volume de l'hippocampe. Et on a pu montrer, c'est des patients qui avaient une maladie d'Alzheimer au stade débutant, au stade léger, qui avaient un MMS à 24, on a pu montrer dans un article qui est important, qu'il y avait déjà une atrophie de 25% du volume de l'hippocampe. Donc on a, avec ce travail, montré l'importance de l'hippocampe dans la maladie d'Alzheimer. Et vous allez voir l'importance que ça a eu par la suite, parce que on a montré aussi avec une de mes collaboratrices, une de mes élèves qui s'appelle Marie Sarrazin, on a montré qu'il y avait une relation, une corrélation, comme on appelle en médecine, corrélation entre le trouble de mémoire et le volume hippocampique. En d'autres termes, plus les gens, plus les patients avaient un trouble de mémoire sévère, plus l'hippocampe était atrophié. Ce que vous avez représenté ici, c'est l'hippocampe gauche, et c'est le territoire de la corrélation. Vous voyez que cette corrélation est très forte dans la région jaune, qui est l'hippocampe gauche. Il y avait donc une corrélation entre l'intensité du trouble de mémoire et l'atrophie de l'hippocampe. Donc ça renforce l'idée que l'hippocampe joue un rôle important dans la maladie d'Alzheimer. Et parallèlement à cela, un chercheur allemand, Brack, qui a été d'ailleurs honoré par la Fondation pour recherche Alzheimer, on lui a donné le grand prix européen de la Fondation pour recherche Alzheimer, et bien Brack, dans un travail très, très important, a montré par ailleurs que sur le cerveau des patients décédés, il y avait une atrophie de l'hippocampe qui était débutante. Vous voyez, c'est la partie gauche, vous voyez, sur ce schéma de gauche, eh bien, on a au tout début, il y a du gris, eh bien, c'est l'hippocampe, c'est le premier stade de la maladie. Et donc, nous, on a repris cette information qui nous allait très bien, puisqu'on a montré, comme je vous l'ai expliqué, chez les sujets vivants, avec l'IRM, qu'il y avait aussi une atrophie très précoce de l'hippocampe. Donc, à partir de là, on a créé ce concept d'un stade initial de la maladie d'Alzheimer qui se caractérise par des troubles de mémoire progressifs et relativement isolés au début en relation avec l'atrophie précoce de l'hippocampe. Et ce n'est que secondairement que vous avez un enrichissement progressif du tableau lié à la présence de troubles plus diffus au niveau du jugement, au niveau de la motivation à agir, ce qu'on appelle l'apathie, qui est en rapport avec la diffusion des lésions, comme vous voyez sur le deuxième schéma, vous voyez au milieu, vers les régions plus antérieures du cerveau, puis l'apparition de troubles du langage, qui est liée à la diffusion des lésions, cette fois-ci, vous voyez, vers la partie postérieure du cerveau, vous voyez, une sorte d'embrasement progressif du cerveau, et qui va petit à petit, je dirais, éteindre toutes les lumières des modules de fonctionnement du langage, de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance des visages, de la compréhension des mots, vous voyez, etc. Et petit à petit, cette diffusion des lésions à partir de l'hippocampe va expliquer l'atteinte que l'on observe chez des patients avec les troubles après de l'affectivité, du comportement, et qui aboutit à une perte d'autonomie qui caractérise ce qu'on appelle, nous, la démence en médecine. Je suis désolé, de ce terme est un terme qui est mal compris par les familles. C'est un terme médical. La démence veut simplement dire que les sujets perdent leur autonomie, ne sont plus indépendants. Je suis, vous êtes indépendant, vous n'avez pas besoin d'être aidé dans vos déplacements, dans vos transports, dans l'utilisation du téléphone ou la prise de vos médicaments. Quand vous avez une atteinte de cette capacité d'autonomie, quand vous n'êtes plus autonome, quand vous n'êtes plus indépendant, nous, médecins, on dit qu'il y a une démence. Et cette démence est un signe tardif pour nous, maintenant, dans la maladie d'Alzheimer, maintenant que nous avons décrit les stades précoces de l'atteinte hippocampique. Ça, c'était une étape très importante. Ça nous a permis de comprendre qu'il y avait deux grandes phases. Une phase qu'on a appelée prodromale, la phase des premiers symptômes, si vous voulez, puis la phase de la démence. Voyez. Mais ça a permis de déplacer la vision de cette maladie vers des stades plus précoces. Deuxième étape encore plus importante, c'est qu'on peut visualiser les fameuses lésions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces lésions que Alzheimer a rapportées, on les voit maintenant du vivant du patient. On n'a plus besoin de couper le cerveau. On les a. On peut y aller ce soir, madame, si vous voulez, avec moi. On peut aller tous les deux voir si nous avons les lésions de cette maladie. C'est très facile. On vous injecte simplement une petite substance qui est une substance radioactive, dont la radioactivité dure 30 minutes, et cette substance va se fixer sur le... Mais monsieur aussi, si vous voulez, je sais pas, vous avez l'air intéressé, si vous voulez, on peut y aller ensemble. Moi, je serais intéressé de savoir si j'ai les lésions. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi après, c'est important. Donc, donc, cette substance va se fixer sur les lésions de la maladie. Vous avez ici à droite, alors, vous voyez, là, à gauche, c'est un sujet contrôle, vous voyez, il n'y a aucune fixation. La grille de lecture est à gauche, vous voyez. Quand c'est bleu en bas, c'est froid. Et puis quand c'est vert, ça commence à être tiède. quand c'est jaune, ça chauffe, et quand c'est rouge, c'est brûlant, il y a beaucoup de lésions. D'accord ? Et vous voyez bien la différence entre un sujet contrôle, c'est froid partout, et un sujet atteint de la maladie d'Alzheimer. Là, c'est un patient qui a la maladie d'Alzheimer, et vous voyez qu'il a les lésions en avant, dans la région frontale, mais aussi en arrière, vous voyez, au niveau du carrefour, ce qu'on appelle le carrefour pariéto-temporo-occipital, et il y a du jaune et du rouge. Il a plein de lésions Alzheimer dans son cerveau. C'est un sujet vivant, c'est un sujet que l'on voit. On demande cet examen et on a la possibilité, cette fois-ci, d'affirmer le diagnostic sur la base de ces lésions qui, maintenant, sont accessibles très facilement. Ces lésions peuvent être identifiées in vivo grâce à cet examen, le PET-IRM. Et sachez que, grâce au fond, que la Fondation pour recherche en Alzheimer a récupéré, on a pu acheter un PET-IRM, le premier PET-IRM qui a jamais été utilisé en France dans les maladies neurodégénératives, a été acheté grâce à nous, grâce aux efforts que nos généreux donateurs ont fait et nous ont permis d'acquérir.
C'est donc un appareil vraiment spécifique qui nous permet de visualiser ces lésions de manière tout à fait caractéristique, mais qui pour l'instant, et je crois qu'il faut quand même le dire, n'est pas du tout utilisé de façon courante et utilisé pour tout le monde ou pour dès qu'une personne se plaint de sa mémoire.
Exactement. C'est un examen qui est encore un examen de recherche. Il n'est pas autorisé.
Mais quand même, il faut vraiment insister là-dessus. Je me permets de le faire parce que c'est tout nouveau. C'est depuis l'été dernier que l'assurance maladie prend en charge pour certains patients dans vraiment un cadre très strict. Exactement. Aujourd'hui. Mais ça date que de l'été 2022. Et c'est vraiment la preuve que les choses avancent. Souvent, on se dit « Ah, ça va pas assez vite, je voudrais un examen pour savoir si oui ou non c'est la maladie d'Alzheimer, je voudrais un traitement. » Mais les choses avancent. Il faut vraiment qu'on ait ça en tête. Hein. C'est très important.
Alors, pour vous dire que voilà, maintenant, on peut aussi, avec ce même examen, merci Élodie, on peut aussi mesurer la concentration des protéines tau de la même façon dans le cerveau. Donc on a maintenant les deux éléments. On a à la fois la pathologie amyloïde et à la fois la pathologie tau. Mais encore mieux, comme vous avez expliqué, il y a des réserves et des difficultés d'accéder à cet examen en clinique. On peut accéder à l'information simplement par une ponction lombaire maintenant. Car on peut mesurer dans le liquide céphalo-rachidien la concentration des plaques amyloïdes et de la protéine tau. Comme vous voyez ici, diminution de la bêta dans le liquide céphalo-rachidien, augmentation de la protéine tau et phospho-tau dans le liquide céphalo-rachidien en rapport avec la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est un geste qui est invasif, c'est un geste qui est coûteux et donc qui n'est pas forcément adapté au repérage de masse, raison pour laquelle on se pose même la question de savoir si on ne pourrait pas le faire dans le sang. Et grâce à des soutiens, là encore, privés, eh bien, je vous présente à droite une slide qui est extrêmement importante, qui est encore confidentielle, car elle n'est pas publiée. On veut, si vous voulez, la confirmer ce résultat sur un échantillon beaucoup plus important, mais tout au moins sur nos patients qui sont bien caractérisés, parce que je dirais que dans la littérature internationale, on ne retrouve pas ce chiffre-là, mais tout au moins dans notre groupe de patients, sur des patients, je vous le dis, très 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 bien caractérisés, on a un seuil qui nous permet d'isoler et de séparer complètement des patients atteints de maladie d'Alzheimer à gauche de ceux qui ont une démence, mais qui n'est pas en rapport avec une maladie d'Alzheimer, avec un dosage de la phospho-tau dans le sang. C'est-à-dire qu'on est sur la trace d'un examen sanguin qui permettrait d'orienter, pas faire le diagnostic, il faut être très prudent, il y a plein de réserves par rapport à ça, mais qui pourrait confirmer une évidence diagnostique sur la base donc d'un simple prélèvement sanguin. Vous vous rendez compte l'importance que cela a et combien il faut être extrêmement prudent dans la manipulation de ce genre de données. Et c'est la recherche, et c'est pour vous montrer que les choses avancent très très vite. Bientôt dans le sang, voilà. Donc la découverte de biomarqueurs change complètement la donne. Vous comprenez, c'est que maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais maintenant on a la possibilité d'établir formellement le diagnostic du vivant des patients. Alors, ça change la donne parce que ça nous a appris des choses incroyables, des choses incroyables. Depuis quelques années, on comprend maintenant que les lésions précèdent la survenue des symptômes. C'est pour ça que je vous disais que c'est important peut-être d'aller faire cet examen, peut-être pas maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça veut dire que j'ai peut-être les lésions de la maladie d'Alzheimer sans en avoir les symptômes, je crois ne pas en avoir les symptômes, tout au moins pas pour l'instant, mais j'ai peut-être les lésions. Et on l'a appris grâce à ces observations, je ne vous rentre pas dans les détails, mais sachez par exemple qu'il y a des changements, justement, CSF, ça veut dire liquide céphalo-rachidien, dans le liquide céphalo-rachidien de la protéine tau, qui est augmentée, la ligne verte, vous voyez là-haut, qui est augmentée, ainsi que la déposition des lésions A-bêta dans le PET scan, et qui sont augmentées, vous voyez, jusqu'à 20 ans, ou tout au moins 15 ans, avant le début des symptômes. Vous voyez ? Donc, et comme on progresse énormément, énormément, au cours de ces dernières années, grâce à ces biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur le chemin de repérer des gens encore normaux qui ont déjà les lésions de la maladie d'Alzheimer. Donc cette idée, vous voyez, qu'il y aurait finalement trois stades dans la maladie, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit au début, il y avait d'abord la démence, c'est ce qu'avait décrit Alzheimer, puis la phase prodromale, je vous ai parlé tout à l'heure que nous avions maintenant isolé une phase avant la démence, qui est la phase des symptômes, mais prodromaux, vous voyez, avant la démence. Et maintenant, il y a même une troisième phase que l'on envisage maintenant, qui est une phase qu'on pourrait appeler préclinique, présymptomatique, vous voyez. C'est-à-dire une phase dans laquelle les gens sont normaux, mais ont déjà les lésions. Alors, la grande question, c'est, est-ce que le fait d'avoir les lésions va déterminer formellement qu'on va développer la maladie ? Imaginons, je vous ai dit, j'ai peut-être les lésions, mais est-ce que ça veut, j'ai pas la maladie aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire que si j'ai les lésions, j'aurai formellement la maladie dans 15 ans, ou peut-être un peu moins, si j'ai déjà 5 ans que j'ai les lésions, ça peut-être dans 10 ans. Vous voyez, donc la question est très très importante. Est-ce que le fait d'isoler, d'être biomarqueur positif, déterminera formellement qu'on développera la maladie ? Le point est essentiel. Je vous dirai après pourquoi, quand on parlera des traitements. Alors, là, je vous raconte simplement une histoire. C'est une diapo qui date déjà d'une dizaine d'années, mais qui est très intéressante. Elle vient d'une équipe australienne, amie, qui me l'a donnée. C'est l'observation de deux sujets. Un premier sujet, vous voyez, c'est une femme de 73 ans, vous voyez, et maintenant vous êtes très compétent et vous allez très bien comprendre ce que je vais vous décrire. Vous voyez, il y a un chiffre rouge, c'est 1,6, et au-dessous, c'est moins d'1,6, c'est-à-dire 1,6, c'est le seuil à partir duquel on considère qu'il y a des lésions amyloïdes significatives. Donc quand on est au-dessous, eh ben, on n'a pas la maladie, on n'a pas les lésions de la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez d'ailleurs, puisque vous vous rappelez les images, vous voyez que c'est bleu, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune, donc elle n'a pas les lésions. Elle a un MMS. Un MMS, c'est un petit test que l'on fait et qui vous donne une idée du niveau de fonctionnement du cerveau. Nous avons tous ici un MMS entre 29 et 30. Hein, le maximum, c'est 30. On a le droit de se tromper d'un point sur le jour de le numéro du jour. Moi, j'aurais 29 parce que je ne sais même pas quel jour on est. Voyez, par exemple. Voilà. Mais je sais qu'on est en mois de novembre, mais je sais qu'on est en 2022. Mais je perds un point sur la date du jour. Vous voyez. Donc, on peut entre 29 et 30. On est tous entre 29 et 30. Cette dame, elle a 29, et puis on la suit. Vous voyez, un an après, on lui refait, vous voyez, tous les mois, tous les 12 mois, on lui refait un PET amyloïde. Et on voit que, ben oui, elle est à 29, elle est à 30, 29, 29, 30, vous voyez, elle ne bouge pas et il n'y a pas de lésion dans son cerveau. Maintenant, prenons un autre patient qui est plus âgé, vous voyez, il a 78 ans, vous voyez, et lui, alors maintenant vous êtes très compétent, vous voyez qu'il a plein de lésions amyloïdes dans son cerveau. Il a du jaune, il a du rouge, enfin il a du jaune, il a plein de lésions et même ça a plutôt tendance, vous voyez, à augmenter. Et il est à un niveau, vous voyez, il est à peu près à 2,2. Vous voyez, il a vraiment plein de lésions amyloïdes à l'entrée dans l'étude. Mais vous voyez que son MMS est 29, 29, 29, 30, 29. Il reste stable. Vous voyez. Donc ça nous a alertés. On s'est dit finalement, avec Olivier de la Doucette, avec toutes mes équipes, on s'est dit, mais finalement, est-ce que le fait d'avoir des lésions comme ce patient est un marqueur de survenue de la maladie? C'est la raison pour laquelle on a fait une grosse étude nationale, c'est la plus belle étude qui est c'est une étude mondiale, hein, puisqu'elle a été faite sur un seul site, 320 sujets, 318 sujets français qu'on a suivis, hein, des sujets âgés, ils avaient en moyenne 76 ans, et on leur a fait à tous un PET amyloïde, et donc 28% d'entre eux avaient des lésions amyloïdes. Donc retenez ce chiffre, 88 sujets étaient positifs, 88 avaient les lésions. Ils ont 76 ans en moyenne, on leur a fait des tas de misères, on les voyait, c'est des gens comme vous et moi, des gens qui étaient cognitivement normaux, on a vérifié que leurs tests étaient normaux, ils ont accepté d'être suivis, c'est remarquable, c'est l'étude Insight, ils ont accepté de participer à cette étude, et donc tous les ans, on leur faisait des ponctions, des prélèvements, des électroencéphalogrammes, des IRM, des PET scans, etc. Et ça a été une contribution considérable à la connaissance. Voilà, je vous montre par exemple, vous allez comprendre ce que ça représente. Là, vous voyez, ce sont les différentes, ils sont présentés par classe, vous voyez, de niveau de lésion amyloïde, sont tous des sujets normaux. Et vous voyez, on voit les lésions amyloïdes sur un certain nombre d'entre eux qui apparaissent, ça c'est à baseline, c'est à l'entrée, hein, qui apparaissent au niveau antérieur. Puis vous voyez, plus ça va, vous voyez, hop, là il y en a de plus en plus, regardez. Voilà, et là, vous voyez, la dernière rangée, ce sont des sujets normaux, d'accord, tout à fait normaux, mais qui ont quand même un paquet de lésions dans le cerveau. Vous comprenez, hein, ils ont des lésions rouges plein leur cerveau. Très bien. Eh bien, 88 sujets avaient ces lésions-là. Très bien. Et qu'est-ce que ça donne quand on les suit pendant 7 ans? 7 ans après, ils ont en moyenne 83 ans, d'accord, il y en a 88 qui avaient des lésions amyloïdes. Eh bien, vous avez le résultat. Sur les 88, 7 ans après, il n'y en a que 16 qui ont évolué vers la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire qu'il y en a 72 qui n'ont pas évolué. Et ça, c'est un résultat considérable. C'est la contribution de la recherche française à cette problématique, parce que les Américains, eux, considèrent que quand on a les lésions, c'est qu'on a la maladie. On leur dit non, non, quand on a les lésions, ça ne veut pas dire qu'on va la développer. Pourquoi? Parce qu'il y a des capacités, ce qu'on appelait de résilience, des capacités de compensation. Le cerveau est capable de compenser, le cerveau est capable de réagir contre les lésions. Il y a des lésions, il y a une altération de la structure, mais il maintient le fonctionnement.
On va attaquer d'ailleurs tout de suite les nouveautés en termes de traitement, parce que vous avez vu qu'il a beaucoup de choses à nous dire, professeur Dubois. Et il y a donc non seulement beaucoup de progrès en termes de dépistage, et on va voir que si c'est si important de dépister tôt, c'est que de nouveaux traitements arrivent et qu'ils sont très probablement d'autant plus efficaces qu'ils sont mis en œuvre précocement.
Vous avez ici les amyloïdes négatifs, voyez, ils n'ont pas de lésions amyloïdes dans le cerveau, d'accord. Et ça, c'est les EEG, la moyenne des EEG à la baseline, à l'entrée, puis un an après, puis trois ans après, d'accord. Là, vous avez maintenant les mêmes EEG faits chez des sujets ici qui sont amyloïdes positifs, qui ont les lésions, mais qui sont stables, qui restent stables. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une modification de l'activité électrique de leur cerveau. Comme s'il y avait une augmentation de ce qu'on appelle de la bande alpha au niveau du cortex frontal, comme si ce mécanisme de compensation avait pour conséquence de maintenir le fonctionnement cognitif, ils sont normaux, d'accord. Alors même qu'il y a des lésions, ils sont amyloïdes positifs. Voyez, donc on a mis en évidence dans cette étude l'existence de phénomènes de compensation qui permettent probablement de maintenir un fonctionnement cognitif alors même qu'on a les lésions. Donc il faut décorréler la présence des lésions et la présence des symptômes. Donc je crois que c'est très important, et c'est la raison pour laquelle il faut être très prudent avec ces dosages sanguins. Parce que ça pourrait nous dire qu'on a les lésions cérébrales, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura la maladie. Donc la présence des lésions est importante quand on a les symptômes, parce que ça vient confirmer le diagnostic, mais la présence des lésions quand on n'a pas de symptômes ne veut absolument pas dire qu'on verra la maladie. Donc tout ça pour vous terminer cette première partie de l'intervention sur, voyez, les progrès qu'on a fait grâce à la visualisation des lésions de la maladie d'Alzheimer. On peut maintenant faire le diagnostic de certitude. On sait maintenant que ces lésions précèdent la survenue des symptômes. Mais attention, le fait d'avoir des lésions ne signifie pas qu'on a la maladie.